Chapitre 3. Siméon met du plomb dans la balance. Elle fit bien, l'impétueuse Ferdine, d'attendre au lendemain soir pour se former une opinion, car dans l'intervalle de 36 heures qui sépara son arrivée à Bonne-Grâce de la première visite de Siméon, deux ou trois revirements complets de ses impressions s'étaient succédés. Ravissement, désillusion, dépit, nouveaux enthousiasmes. Cependant, Ferdine, même dans ses exubérances intérieures, était plutôt sauvage et réservée. Nul, sinon May Baudroit, ne sut qu'elle avait été sur le point de refaire sa malle pour fuir Léa Gaillère. Nul, sauf Siméon, n'apprit son admiration, bouillonnant en une heure à une température de plus de 100 degrés pour le professeur de rhétorique et de versification. Il était 5 heures. Les 40 pensionnaires de Bonne-Grâce, groupés dans la salle d'études, causaient à demi-voix, lisaient, brodaient, sous la surveillance aimable et gracieuse de Mademoiselle Octavie, quand on appela Ferdine au parloir. Elle s'élança dans la petite pièce égayée de plantes vertes, de dessins, d'aquarelles, que lui ouvrait la femme de chambre et qui n'avait rien de l'austérité d'un parloir classique. Elle poussa un cri de bienvenue en apercevant Siméon, lui saisit les mains, l'entraîna près de la fenêtre vers un petit divan rouge où ils s'assirent côte à côte. « Tu vas bien, Ferdine? Tu es heureuse ?» demanda Siméon de son air tranquille. « Est-ce que je sais, voyons? Ne commence pas à faire des questions comme une grammaire Ohlendorf. Tu te souviens de cette vieille grammaire allemande qui avait la passion de demander « Mettez-vous vos souliers avant de mettre vos bas » ou « Mettez-vous vos bas avant de mettre vos souliers ?» Moi, je sais à peine qui sont mes bas et qui sont mes souliers. J'ai la tête à l'envers. » Tâchons de la remettre à l'endroit, dit Siméon, passant fraternellement la main sur les nattes de sa petite sœur adoptive, nichée tout près de lui. Ferme les yeux, s'écria Ferdine par une inspiration soudaine. Ferme les yeux, mais je n'ai pas sommeil. Oh, ferme les yeux, je t'en prie, je te dirai pourquoi. Il obéit en riant. « Très bien !» dit Ferdine, qui, pour plus de sûreté, posa ses doigts sur les paupières de Siméon. « Déclare maintenant de quelle couleur sont mes cheveux ?»« Ils sont noirs, Ferdine, noirs comme la nuit. Auraient-ils blanchi depuis hier ?»« Tiens, j'imaginais que tu n'aurais su que répondre, » fit-elle en retirant sa main. « As-tu déjà vu les dames Gaillère ?» J'y suis allée ce matin pour remettre au docteur la lettre de ton père. « Je ne les aime pas !» déclara Ferdine sans embâge. « Léa Gaillère est une oie. Oh, si tu l'avais entendue ce matin, à la leçon de géographie, confondre le Caucase avec l'Himalaya !»« Mademoiselle Jeanne parle très bien l'anglais, » dit Siméon. « Tu n'en peux juger, toi qui sais à peine 10 mots d'anglais. » « Mais chacun le dit, Ferdine. » Oh, chacun! C'est drôle, fit-elle s'interrompant. Aussitôt que je prononce le nom des demoiselles Gaillère, je me sens devenir méchante. Parlons d'autre chose, Siméon. Nous avons pour la rhétorique un professeur céleste. Réellement, il devrait enseigner l'astronomie, alors, dit Siméon. Ses yeux! Tu devrais voir ses yeux pleins d'esprit, pleins de charme, quand il explique la métaphore et la métonymie. « Savais-tu, Siméon, qu'une métaphore est une comparaison abrégée, de telle sorte que si je dis « Léa Gaillère est sotte comme une oie », c'est une comparaison, mais si je dis « Léa est une oie », je fais une métaphore ?»« Laisse donc cette pauvre Léa, » dit Siméon, étonné d'une telle persistance. « Tu as raison, elle me gâte jusqu'à la belle rhétorique. » Toutes nos leçons aujourd'hui ont été délicieuses. Nous avons écrit ce matin le programme de chaque jour et c'est un programme à s'agenouiller devant. Si varié, si charmant, une fête d'un bout à l'autre. De la musique, du dessin, des promenades, de midi à une heure de la gymnastique ou du lawn tennis et s'il fait trop chaud, on s'assied sous l'avenue. Le soir, c'est la correspondance ou bien une lecture à haute voix ou bien un petit concert au salon. Il est certain, dit Siméon, que vous ne devez pas être trop malheureuse. Mais toi, Siméon, tu n'es pas malheureux ? Demanda Ferdine avec une soudaine sollicitude. Je suis heureux comme une grenouille dans son élément. Pendant les vacances, ma bourgeoise a fait mettre des rideaux neufs à ma chambre. J'y suis comme un prince. J'ai pris aujourd'hui mes inscriptions. Nos cours promettent d'être célestes comme les tiens. À partir de demain matin, il faudra que je pioche ferme. Figure-toi, dit Ferdine, que nous avons aussi nos piocheuses et que, sans le savoir, j'ai choisi mon pupitre dans leur camp. Il y a deux camps, les piocheuses et les élégantes. J'ai entendu chuchoter d'autres noms, beaucoup moins polis, mais on les chuchote seulement, car la politesse est de rigueur à bonne grâce. Je sais que les élégantes appellent les piocheuses des girafes savantes et les piocheuses le leur rendent bien. Moi, j'ai envie de former un troisième camp. Pour s'y faire admettre, il faudra être intelligente et travailleuse, mais pas pédante. Entre nous, la chefesse des piocheuses me semble un peu pédante. Elle est atrocement fagotée et myope comme une taupe. « Dis donc, Ferdine, commença Siméon, qui hésita ensuite. « Eh bien ?»« Bonne grâce t'a déjà un peu gâtée. Tu étais plus gentille là-bas. » « N'est-ce pas ?» dit Ferdine à demi-voix, appuyant sa tête sur l'épaule de son grand frère. « Certainement, tu étais plus charitable d'abord. »« Oui, je ne détestais personne. » »« Et puis, tu parlais plus sensément. » »« Ici, je bavarde comme une pie. Par moments, il me semble que ma langue parle toute seule. » »« C'est l'excitation du premier jour. » dit Siméon, un peu alarmé d'entendre que la voix de Ferdine s'altérait. « Il y a trop de choses, trop de gens. Je me sens comme dans un tourbillon. Oh, Siméon, emmène-moi » s'écria-t-elle en s'accrochant à son bras. « Je ne me reconnais pas moi-même. Siméon, je suis orgueilleuse. » « Vraiment ? » fit-il incrédule. « Oui, note cela. Siméon, je suis susceptible, rancunière, moqueuse, frivole. » À chaque adjectif, comme pour laisser à son ami le temps de l'inscrire. « Je me fais horreur à moi-même, » conclut-elle. « De quand datent ces belles découvertes ?» demanda Siméon qui souriait. « Oh, ne souris pas, gronde-moi, cela me ferait tant de bien. » « Résumons, dit-il, c'est une excellente chose que de résumer. Tu n'aimes pas Léa Gaillère. »« Je la déteste, Siméon. » »« N'exagérons pas, elle t'est peu sympathique, voilà. Tu aimes les leçons ?»« Quel mot froid et insuffisant !»« Il suffira tout de même, le résumé est fait. » »« Tu es très raisonnable, soupira Ferdine. Tu me calmes. Parle-moi encore. » « Eh bien, dit-il, je ne suis pas trop étonné que tu fasses des découvertes dans ton caractère. J'en ai pas mal fait dans le mien et peut-être ne sommes-nous pas encore au bout. Nous avons quitté notre petit coin du monde où chacun nous aimait, nous encourageait, où nous étions aimables parce qu'il n'y avait vraiment pas moyen de faire autrement. Oh, Ferdine, pense à ma bonne tante Cornélie, si indulgente, si douce, que lui obéir était une joie. » Pense à Mademoiselle Caton, qui te grondait beaucoup assurément, mais tu étais le centre du monde pour elle. Pense à ton père, qui travaillait pour toi tout le jour, de loin ou de près. Ce qu'il désirait, c'est que nous fissions toujours le bien. Siméon ! Exclama Ferdine, qui cacha son visage dans son mouchoir. Tu parles d'eux comme s'ils étaient morts. Ils ne sont plus avec nous pour interpréter favorablement, affectueusement, chacune de nos actions. Nous sommes jugés maintenant par des étrangers qui ne sont point trop fâchés de nous découvrir des défauts et des torts, qui nous excitent même à les manifester, qui nous piquent et nous harcèlent exprès, qui nous interrogent malicieusement et qui cherchent nos points faibles pour nous blesser à coup sûr. « Oh, c'est affreux !» sanglota Ferdine. « C'est pire qu'une caverne de brigands !» Mais non, c'est une école très utile, répliqua Siméon. Les recoins cachés de notre caractère se dévoilent. Ce n'est pas toujours beau à voir, mais il faut se connaître. J'espère que, dans votre programme si rempli, on vous a laissé quelques moments tranquilles pour réfléchir. En as-tu, toi ? Demanda-t-elle. Je réserve toujours une demi-heure avant le sommeil pour penser aux miens qui sont là-bas, pour revivre en esprit ma journée, pour regretter bien souvent une parole ou une action inconsidérée, et pour remercier Dieu.
Tu ne m'avais jamais dit cela.
Non, mais nous sommes si près l'un de l'autre maintenant, et si seuls. Vois-tu, Ferdine, c'est la bataille de la vie qui commence quand on a quitté le chez-soi.
Merci, fit-elle, essuyant ses larmes. Je crois que j'ai eu la fièvre pendant 2 jours, mais j'en suis remise et je me connais mieux. Je prendrai la même demi-heure que toi, Siméon, pour réfléchir.
La porte s'ouvrit doucement et Mademoiselle Octavie entra. Elle tendit la main à Siméon qui se leva aussitôt, un peu inquiet d'avoir trop prolongé cette première visite.
Il pourra venir chaque jour, n'est-ce pas ? S'écria Ferdine. Papa, ne vous a-t-il rien écrit à ce sujet, mademoiselle ? À la maison, nous étions toujours ensemble.
Le pensionnat ne saurait ressembler tout à fait à la maison, malheureusement, dit mademoiselle Octavie, de sa voix aimable et gaie. Il ne me paraît pas que nous puissions recevoir Monsieur Siméon plus de 2 fois par semaine, régulièrement. Mais si le cœur crie par trop famine, ajouta-t-elle, passant affectueusement sa main autour du cou de Ferdine, je ne serai point impitoyable, je saurai compatir.
Alors quand ?
Demanda anxieusement la jeune fille, suivant son cher Siméon jusqu'au seuil du parloir.
Après-demain, répondit mademoiselle Octavie avec un petit signe de tête encourageant. La première semaine est une semaine d'exception.